Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Au-delà du salaire, au-delà des conditions de travail, le bonheur est-il une responsabilité de l'entreprise ? Non, ce n'est pas un sujet du bac qui commence cette semaine, mais c'est bien un enjeu identifié par les directions. Et désormais, il n'est plus seulement question d'installer un baby-foot dans un coin du bureau pour rendre les salariés heureux. Le télétravail et la crise sanitaire sont passés par là, faisant de l'écoute et de l'accompagnement des salariés un élément central des stratégie interne des entreprises.
Bonjour Olivier Samin.
Bonjour.
Il faut dire que la qualité de vie au travail, dont la semaine débute aujourd'hui, c'est un enjeu d'attractivité pour les entreprises qui rivalisent d'initiatives, notamment pour les salariés aidants. Il serait plus d'un sur cinq à devoir s'occuper d'un proche dépendant et que certains employeurs s'efforcent donc d'accompagner au quotidien.
Il y a les dons solidaires de jour RTT non pris. La loi le permet depuis 2014 et quelques grandes entreprises ont mis le système en place avec un abondement de l'employeur, ce qui permet aux salariés aidants de s'absenter sur des périodes assez longues sans entamer leur capital de congés payés. Il y a aussi les facilités en matière de télétravail. À la Poste, par exemple, chaque salarié aidant a droit à 25 jours de télétravail flottant par an. Certains employeurs aident financièrement la prise de jours de répit. Des professionnels prennent le relais du salarié aidant pendant quelques jours pour lui permettre de souffler. Et puis, il y a de nouveaux services qui apparaissent. Le care management, par exemple. Votre père ou votre mère devient dépendant. En quelques semaines, vous devez trouver une solution. Votre employeur va vous proposer un service clé en main. Guillaume Staub réside PreventCare, prestataire spécialisé dans ce type d'accompagnement.
On va, pour le compte du salarié, chercher l'auxiliaire de vie, chercher l'infirmière, chercher le matériel médical et l'aider à remplir les dispositifs pour mettre en place une aide financière. Donc le salarié n'aura strictement rien à faire.
Ce qui pouvait apparaître comme une démarche altruiste chez les entreprises pionnières devient de plus en plus aujourd'hui un argument de poids pour attirer les talents.
Olivier Samin.
7h03 sur Europe 1. Les élections régionales, dernière ligne droite avant le premier tour, c'est dimanche.
Et ce dernier scrutin avant la présidentielle, il sera forcément suivi de près avec de nombreuses questions. La droite conservera-t-elle ses fiefs? L'extrême droite parviendra-t-elle à s'imposer face à elle? Justement, quelle stratégie? Autant de questions que l'on retrouve dans le Grand Est. Vous y êtes notre correspondant, Arthur Mbaché. Et dans la campagne, chez vous, s'invitent des sujets plutôt nationaux.
Et en particulier la santé et la sécurité, ce ne sont pas des compétences régionales, elles sont au cœur de la campagne régionale ici dans le Grand Est.
Même dans nos campagnes, même dans le milieu rural, sortir de chez soi devient quelque chose d'inquiétant.
Laurent Jacobelli est le candidat du Rassemblement National.
Alors j'entends beaucoup, la sécurité n'est pas une compétence régionale. Moi je dirais surtout que la sécurité est une preuve de l'incompétence de notre président.
Le président sortant et candidat, c'est Jean Rottner, les Républicains urgentistes, très médiatisés depuis la pandémie. La région ne gère pas les questions de santé, sa réponse.
Oui, mais l'aménagement du territoire fait partie de notre compétence. Quand on aménage le territoire, on ne peut pas oublier la santé. La formation professionnelle fait partie de notre compétence. Et moi je prévois de former 2000 infirmières, 2000 aides-soignantes et 2000 auxiliaires de vie supplémentaires.
Jean Rottner qui veut absolument virer en tête dès le premier tour pour être en position de force en cas de front républicain. Un peu derrière dans les sondages, la ministre d'Emmanuel Macron, Brigitte Klinkert, ex-Les Républicains, cherche à incarner le vote utile anti-extrême droite.
Le Rassemblement National se délecte de l'éloignement, il se délecte de la déconnexion avec les habitants, il se délecte du gommage des identités. Eh bien, moi, mon programme, c'est juste la proximité et c'est le respect des identités.
La ministre candidate laisse entendre que pour battre le RN, elle est prête à des rapprochements ou fusions. Même son de cloche pour l'écologiste Éliane Romani.
Ma ligne est claire. Pour moi, c'est l'écologie et la justice sociale. Et je rassemblerai tous ceux qui sont d'accord avec ces valeurs-là. Oui, je souhaite faire barrage au Rassemblement National.
Il y a 5 autres listes dans le Grand Est, l'une portée par l'ex-PS Aurélie Filippetti, Lutte Ouvrière, Unserland pour le retour à la région Alsace, l'Union des démocrates musulmans français et la liste de Florian Philippot, l'ex numéro 2 de Marine Le Pen.
Arthur Mbaché dans le Grand Est pour Europe 1. En Bretagne, l'ancien président de région, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, appelle dans les colonnes de Ouest France ses deux héritiers à fusionner au soir du premier tour face, je cite, au danger réel que représente le Rassemblement National donné en tête dans un récent sondage.
Il s'est ouvert jeudi dernier le procès pour assassinat de l'ancien compagnon de Julie Dweeb en Corse. Aujourd'hui, c'est sa personnalité qui sera au cœur des débats.
Marion Dubreuil, vous suivez les audiences pour Europe 1 et jusque-là, l'accusé continue de nier la préméditation, même si de nombreux témoins ont décrit l'emprise qu'il exerçait sur la victime.
Oui, quand Sébastien a témoigné au procès, Bruno Garcia lui a délibérément tourné le dos dans le box. Ce professeur de sport a fréquenté Julie après leur séparation. Il va se servir de notre liaison pour justifier l'injustifiable, affirme Sébastien. Mais tout était prémédité depuis bien longtemps. À la barre, le professeur de sport raconte que la première fois qu'il rencontre Bruno et Julie, c'est Bruno qui donne les ordres. « Il faut que tu me la muscles là et là ». Il montre les fesses, le ventre. Julie, elle, n'a pas dit un mot. Elle était complètement soumise. Et puis, petit à petit, elle a commencé à s'émanciper, aller à la salle de sport sans lui, sortir avec des amis. Bruno Garcia ne le supportait pas. C'était un psychopathe qui l'a traqué en permanence, affirme Sébastien. Véronique, une voisine, raconte les larmes aux yeux, une scène qui l'avait tétanisée. Bruno avait saisi Julie par les cheveux et lui avait fait dévaler l'escalier. Depuis, elles avaient convenu d'un nom de code, au cas où ça déborde trop, car personne à la gendarmerie ne la croyait. J'étais tout le temps à l'affût, elle confie mal à l'aise. Quelque part, j'ai été soulagée quand elle a déménagé.
Marion Dubreuil en Corse pour Europe 1. Autre procès aujourd'hui, celui en appel de Willy Bardon pour le meurtre et le viol d'Élodie Kulik dans la Somme en 2002. Il avait été condamné à 30 ans de prison en première instance.
En Algérie, après les législatives de ce week-end, les premiers résultats attendus mercredi, même si déjà un parti revendique la victoire. Mathieu Bock, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Alger. Le principal parti islamiste s'autoproclame vainqueur.
Oui, comme pour couper l'herbe sous le pied du pouvoir qui avait reporté de 4 jours l'annonce des résultats, les islamistes modérés du MSP ont affirmé dès hier qu'ils étaient arrivés en tête et ils ont même mis en garde contre, je cite, les nombreuses tentatives de modifier les résultats du scrutin. Il est vrai que le déroulé de la journée de samedi a de quoi intriguer. À 16h, le taux de participation n'atteint même pas les 15%. Les autorités annoncent alors prolonger l'ouverture des bureaux de vote d'une heure. À la fermeture, le taux de participation bondit de 15 points pour s'établir à 30%. Cela veut dire que durant les 4 dernières heures, autant de personnes sont allées voter qu'en 8 heures de temps depuis le matin. Ce qui laisse perplexe, car aucun observateur ou journaliste présent dans les bureaux de vote n'a confirmé avoir vu une telle affluence en fin de journée.
Mathieu Bock en Algérie, où par ailleurs le pouvoir a décidé de retirer son accréditation à France 24, dénonçant son hostilité manifeste et répétée. C'est une organisation qui a vu le jour en 1949. L'OTAN va revoir aujourd'hui ses objectifs stratégiques. Sommet de l'Alliance Atlantique à Bruxelles en présence de Joe Biden qui entend apaiser les tensions de l'ère Trump.
L'Euro de foot à présent, des jauges partout. Sauf en Hongrie, le pays de Viktor Orban entend bien faire triompher le foot malgré le coronavirus.
La Hongrie qui fait partie du groupe des Bleus hein, dans cette compétition. Et demain, alors que la France affrontera l'Allemagne, les Hongrois, eux, recevront le Portugal dans un stade totalement rempli. Le pays, pourtant durement touché par le Covid, a considérablement allégé ses restrictions. Reportage à Budapest de l'envoyé spécial d'Europe 1, Simon Rubin.
Dans la fan zone installée dans le plus grand parc de la ville, on profite du soleil autant que du foot. Quelques centaines de personnes devant les écrans géants. Ici, on ne porte pas de masque en extérieur. Piotr savoure. Je suis très content qu'on accueille enfin l'Euro, sourit-il, et je suis ravi de profiter de la fan zone. J'aurais aimé aller au stade, mais je ne me sens pas totalement en confiance. Il faut dire que la Hongrie affiche le plus fort taux de mortalité lié au Covid de toute l'Europe, notamment en raison d'un système de santé défaillant. Alors imaginez plus de 60 000 spectateurs regroupés dans un stade, pas de quoi rassurer, même si demain le dispositif sera strict, se rassure Natalia. On a cette carte d'immunité qui atteste de notre vaccination ou d'un test négatif. Ça permet d'accéder au restaurant, au cinéma, au musée et ce sera impératif pour entrer dans le stade. Une carte d'immunité que tout le monde a dans la poche ici, car si la Hongrie est le pays d'Europe le plus touché par le virus, c'est aussi le champion de la vaccination avec 42% de la population totalement vaccinée, 20 points de plus que la France. Budapest, Simon Rubin, Europe 1.
Et aujourd'hui au programme de l'Euro, l'affrontement entre deux équipes dont la préparation a été perturbée par des cas de Covid, Espagne, Suède, ce sera à partir de 21h. Et puis après sa défaite en finale de Roland-Garros, ce message ce matin de Stefanos Tsitsipas sur Instagram, il dédie cette première finale à sa grand-mère paternelle. Il assure qu'il annonce qu'il a appris la mort de sa grand-mère seulement avant le début de sa finale hier à Roland-Garros, quelques minutes avant d'entamer son match.
Marion Calais, merci beaucoup. On va reparler bien sûr de Roland-Garros longuement ce matin. L'édito sport de Virginie Fulpin dans une dizaine de minutes. On va parler de Novak Djokovic que vous entendrez dans le journal de 8h. Et oui, nous sommes radio officielle de Roland-Garros. Le vainqueur est sur Europe 1 ce matin, 7h11. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.